Mesdames et messieurs, chers amis, cher Yves Michaud, je ne sais pas où il est, monsieur le président. Donc, bonne journée, bon matin, heureux travaux. Je ne vais pas faire d'introduction à ce débat qui se suffit à lui-même. Et je me contenterai d'introduire notre hôte, le professeur Marc Fumarolli, qui, comme chacun le sait, est un éminent professeur de cette maison, qui est un des plus illustres professeurs du Collège de France et qui, sur beaucoup des sujets que nous abordons au cours de ces deux journées, apportera des lumières irremplaçables. Simplement, avant de lui céder la parole, je voudrais vous remercier chaleureusement les uns et les autres d'accepter de consacrer ces deux journées à cette réflexion commune, collective. Et je dois dire que j'avais ce sentiment hier, et je pense que ce sentiment sera confirmé aujourd'hui. Je ne veux absolument pas abaisser la politique qui mériterait au contraire de s'élever un peu, mais j'aimerais que nos responsables politiques de tous les horizons puissent prendre quelquefois le temps de vous entendre attentivement. Et ce que j'ai entendu hier, par exemple, sur l'égalité, sur la démocratie, sur tous les sujets abordés, était d'une grande élévation de pensée et renouvelle profondément, je dirais, la réflexion, et est une incitation à aller beaucoup plus loin et à ne pas se contenter, comme trop souvent aujourd'hui, de clichés, de formules toutes faites. Bref, je reste là, mais vraiment, je pense que nous devons avoir une immense gratitude à l'égard de chacune et chacun d'entre vous, de nos amis venant d'autres pays qui ont fait le voyage. Et ce qui me réjouit, c'est de savoir que ces travaux sont transmis par Internet et feront l'objet de publications. J'espère que chacun en tirera son miel pour sa propre réflexion, éventuellement pour son action. Cher Marc Fumarolli, je vous cède la parole en ces lieux qui sont les vôtres.
Merci, monsieur le ministre. Je suis là simplement au nom de monsieur l'administrateur, Jacques Glowinski, pour vous souhaiter la bienvenue. Et il est malheureusement en voyage et il n'a pas pu annuler pour être là. Et puis également pour recevoir monsieur le ministre Jacques Lang, qui a la générosité, ce qui est rare parmi les ministres, de bien vouloir de temps en temps se mêler au professeur et de se mettre même, comme il vient de le dire très humblement et très généreusement, encore une fois, à leur écoute. Et j'ai été moi-même l'hôte de monsieur Michaud il y a quelques mois dans son université de tous les savoirs, et à l'issue de cette conférence, je lui avais dit, serait bon qu'une collaboration s'installe entre cette université de tous les savoirs et le Collège de France, qui a en quelque sorte des intentions communes, puisque comme vous le savez, ici, on enseigne tout, non pas omnibus, comme avait voulu le dire monsieur Giscard d'Estaing lors d'une de ses visites, puisque le verbe doceo en latin se construit avec deux accusatifs, mais en français, effectivement, qui enseigne tout à tous, à qui veut, en tout cas, veut bien venir ici écouter. Le sujet choisi pour ce colloque est particulièrement topique. Il l'est d'ailleurs depuis longtemps. Les questions qui se posent à vous sont posées, je le dirais, depuis le début du XIXe siècle, depuis le moment où l'on s'est rendu compte qu'on était entré dans une ère nouvelle, une ère qui abolissait en quelque sorte à court ou long terme les hiérarchies, les ordres fondés, les sociétés d'ordre, les sociétés fondées sur l'existence d'une aristocratie, qu'elle soit une aristocratie militaire ou une aristocratie intellectuelle, les clercs. Il serait très intéressant d'ailleurs d'établir la généalogie du débat que vous allez conduire aujourd'hui et montrer en particulier que les réflexions extrêmement profondes et extrêmement actuelles que Alexis de Tocqueville propose surtout dans la seconde démocratie en Amérique, celle qui paraît en 1840, la plus angoissée, je dirais, la plus intéressante, la plus attachante pour nous, sont en fait comme une conclusion avec une densité et une sorte de prévoyance prophétique des problèmes, des paradoxes qui caractérisent l'ère nouvelle dans laquelle nous sommes toujours, en fin de compte. Nous sommes simplement dans les conséquences encore plus profondes, encore plus radicales de ce que Tocqueville, vers 1840, voyait déjà d'avance. Et je dirais d'un mot, pour ne pas vous retenir, parce que vous avez autre chose à faire et que je ne suis pas prévu au programme, mais je dirais simplement que Tocqueville a parfaitement vu que l'essence même de la démocratie est paradoxale. Il y a même, si vous voulez, un arrière-plan illuministe à cette théorie, à savoir que pour un mystique, on ne peut pas monter sans descendre. Eh bien, pour Tocqueville, qui se garde bien de mettre en avant cet arrière-plan de sa pensée, la démocratie est inévitable parce qu'il faut que l'humanité entière, le genre humain, participe de ces lumières qui, jusque-là, étaient le privilège des aristocraties du savoir, les clercs, ou de l'aristocratie du rang, ou de la naissance, la noblesse. Mais en même temps, il est angoissé parce qu'il voit que cette diffusion, qui est indispensable pour qu'il y ait à la fin, parce qu'il y a toujours une finalité, une sorte d'eschatologie dans cette pensée romantique, pour qu'à la fin, toute l'humanité participe d'une sorte de rédemption finale et se retrouve en quelque sorte dans la responsabilité du divin. Mais, en cours de route, il peut y avoir une sorte de chute, c'est-à-dire la dispersion, la vulgarisation, l'affaiblissement, l'appauvrissement de ce qui était en quelque sorte intact, ou en tout cas d'une grande prégnance, tant que c'était le privilège et le secret de caste. Et je crois que là, il y a quelque chose de presque tragique qu'il faut que nous regardions en face et qui ne doit pas être simplement noyé dans des pensées faciles ou des pensées rassurantes ou, comme l'a dit Monsieur le ministre, des formules toutes faites, des slogans dont, malheureusement, le plus souvent, nous nous contentons pour ne pas regarder en face ce qui, effectivement, est le problème central que nous avons à traiter. Merci de m'avoir écouté, mais je vous recommande de vous reporter le plus souvent possible à Tocqueville, et je pense que M. Yves Michaud l'a bien présent à l'esprit et que, même souterrainement, il vous a guidé sur ses routes, et je l'en félicite.
Eh bien, bonjour. Alors, pour introduire cette quatrième table ronde, contrat et solidarité sociale, il a été fait appel au philosophe Jean-Fabien Spitz. Alors, deux mots peut-être avant de vous présenter, monsieur, sur l'organisation de notre débat. Il est donc convenu qu'après l'adresse plénière, les personnes présentes à cette table ronde fassent leur exposé et que nous ouvrions le débat collectivement à la suite. Alors, Jean-Fabien Spitz, 49 ans, ancien élève de l'École normale supérieure, est agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Il a enseigné à Paris 10 comme maître de conférences à l'université de Caen en qualité de professeur. On a pu suivre ses cours également à l'université du Québec à Montréal. Depuis la rentrée, il est professeur de philosophie politique à la Sorbonne. Spécialiste de l'histoire de la philosophie politique, Jean-Fabien Spitz consacre aussi ses travaux à la conception républicaine de la liberté et du pouvoir. Il est ainsi de ceux qui pensent que la République ne se porte pas si mal et qu'il y a en France plus de républicains qu'on ne le croit. ce sont les moyens de l'État qui sont en crise, pense-t-il pas l'idée de la République ? Et comme pour le démontrer, Jean-Fabien Spitz a publié en février 2000 dans la revue Le Débat un article roboratif resté fameux pour dénoncer le triste état de l'enseignement supérieur dans notre pays. Les conditions de travail et de recrutement y auraient pour effet d'y tuer toute passion intellectuelle. Il décrivait alors l'université comme un lieu où règne l'anti-intellectualisme, un lieu où l'on ne produit plus de savoir, mais où l'on se contente de répéter très mal celui qu'on a acquis il y a longtemps. Coup de blues ou coup de stress, Jean-Fabien Spitz va s'efforcer maintenant, dans l'adresse plénière qui lui a été commandée pour ouvrir cette table ronde, de démontrer que l'université française reste capable d'attirer et de faire grandir en son sein les meilleurs talents et que lui-même n'a rien perdu de sa grande passion intellectuelle.
Alors, la question de la solidarité dont on me demande de traiter aujourd'hui est au fond très simple. Ceux qui, dans une société, ont des talents, des dons exceptionnels, sont pourvus d'une énergie supérieure à celle des autres, ont-ils le droit de conserver pour eux les avantages liés à la mise en œuvre de ces dons et de ces talents ? Ou bien, au contraire, sont-ils tenus de partager au moins une partie des avantages qu'ils recueillent du fait de leurs talents et de leurs dons avec ceux qui en sont dépourvus ? Et cette question de la solidarité est évidemment liée à la question du contrat. Est-ce que ce partage des produits, des talents et des dons est la condition pour que ceux qui, dans une société, sont moins favorisés que les autres dans la répartition des avantages naturels, est-ce que ce partage est la condition de la légitimité du contrat ? C'est-à-dire, au fond, est-ce que les moins favorisés dans une société peuvent prétendre que si on ne partage pas les fruits de la mise en œuvre des talents, la légitimité est détruite et l'obligation d'obéir n'existe plus ? Pour traiter une question de ce genre, la grande difficulté est de savoir si l'arbitraire dans la répartition des talents doit ou non entrer en ligne de compte et jouer un rôle. Et on distingue à cet égard deux formes d'égalité. On peut dire la position des individus dans la structure sociale, la position des individus du point de vue du capital culturel, du point de vue tout simplement de la situation de fortune, cette position est arbitraire. Et par conséquent, elle doit être compensée. Et on doit s'efforcer, à cet égard, de créer une sorte d'égalité des chances. Donc, on devrait mettre tous les individus sur un même pied d'égalité au départ, sur une ligne identique de départ, en leur donnant un capital culturel par des moyens éducatifs et en compensant leur infériorité du point de vue des ressources économiques, de façon à ce que des individus qui ont des talents égaux, qui ont des dons égaux, puissent les mettre également en œuvre. Et au fond, l'injustice vient du fait que des gens qui sont également doués ne peuvent pas, en raison de leur origine sociale, mettre également en œuvre ces talents et ne parviennent pas à des situations sociales identiques sous prétexte que leur origine sociale est diverse. L'égalité ici est conçue donc comme une égalité des chances, les talents restant en quelque sorte la propriété de chacun et de façon fort légitime, l'essentiel étant qu'à talent identique, potentialité ou possibilité de résultats identiques. Mais l'idée de solidarité va bien au-delà de cette idée, parce que elle pense que si l'on peut accuser la situation des individus dans la structure sociale et du point de vue du capital culturel, si on peut accuser cette situation de caractère arbitraire, la situation de ces mêmes individus dans la répartition des dons naturels et des talents est tout aussi arbitraire. Et par conséquent, si l'on accepte le postulat qui veut que l'on compense les facteurs arbitraires et que l'on compense la situation sociale initiale, tant par rapport à la fortune que par rapport au capital culturel, alors on se doit d'appliquer aussi ce raisonnement aux talents eux-mêmes, aux dons, à l'énergie supérieure, et on doit par conséquent compenser les inégalités de talents. On doit compenser ces inégalités parce qu'elles sont affectées d'un arbitraire aussi radical que l'arbitraire qui affecte la situation sociale. La solidarité consisterait par conséquent à, en quelque sorte, partager nos destins. Nous sommes livrés à une sorte de hasard dans le jeu de la répartition des dons naturels et des talents. Il y a des aléas naturels, nous les affrontons ensemble, c'est-à-dire que si les dons et les talents tombent sur certains, ceux qui les reçoivent ou ceux qui les possèdent ne les méritent pas, ne méritent donc pas la totalité des avantages liés à leur mise en œuvre. Ils sont tenus d'en partager les fruits avec ceux qui en sont dépourvus, et la loterie naturelle étant ce qu'elle est, n'étant pas liée à la capacité ou au mérite des individus, il est absolument légitime que ceux qui sont favorisés n'aient pas l'ensemble des avantages liés à la faveur dont ils sont les objets, soit de la part des dieux, soit de la part du hasard. Et par conséquent, l'égalité voudrait que nous partagions nos destins, l'égalité voudrait que nous compensions, par une structure sociale adéquate, que nous compensions les inégalités de dons naturels, de talents et même de capacités de travail et d'énergie qui ne résultent pas de la propriété des individus, mais qui sont livrés à chacun par le hasard de sa naissance et de sa situation dans une structure sociale. Bien entendu, il est difficile d'envisager concrètement la manière de compenser les talents. Mais, comme vous le savez, il en a été question hier un tout petit peu, l'égalitarisme contemporain, celui de Rawls en particulier, dispose d'une solution très simple, au fond, à ce problème de la compensation ou de l'égalisation des talents. Cette solution consiste à dire que les talents consistent en une ressource commune, forment une ressource commune pour l'ensemble de la société, et que, par conséquent, il faut disposer la structure sociale de façon à ce que leur mise en œuvre soit bénéfique pour tous. Nous partageons les talents en sorte que leurs retombées sont réparties sur l'ensemble des membres de la société et ne sont pas annexées exclusivement au bénéfice de ceux qui en sont les porteurs, mais non les propriétaires. Ils en sont simplement les dépositaires, comme s'il s'agissait d'un capital qu'ils gèrent, mais pour le profit commun et dont ils ne sont pas les exclusifs bénéficiaires. Et c'est ce que Rawls appelle le principe de différence, c'est-à-dire que les inégalités effectivement liées à la mise en œuvre des talents, liées à la mise en œuvre des dons naturels sont d'une certaine façon légitimes. Il est légitime qu'elles se développent, il est légitime qu'elles prennent place dans la société, mais en revanche, ce qui est illégitime, c'est que ceux qui sont porteurs de ces talents recueillent l'ensemble des bénéfices qui sont liés à leur mise en œuvre. Et par conséquent, il est légitime que l'État intervienne, que la puissance publique intervienne pour faire en sorte qu'il y ait une redistribution et qu'une partie des avantages liés à la mise en œuvre des talents soit ainsi redistribuée en direction de ceux qui sont le moins favorisés dans la répartition des avantages naturels. Et en ce sens, les talents naturels auraient pour effet que leur mise en œuvre, au fond, est légitime et les inégalités qui en découlent sont elles aussi légitimes, à condition de bénéficier à ceux qui en sont dépourvus. Et de cette façon, nous partageons effectivement nos destins, nous avons un destin commun, nous affrontons ensemble le sort, la fortune, le hasard, les aléas de la répartition des dons et des talents naturels, et nous avons ainsi une légitimité, et le contrat social serait légitime à condition que s'opère cette redistribution à l'avantage des moins favorisés. Bien entendu, une telle façon de compenser les différences de talent et de compenser les inégalités de talent ne signifie pas que ceux qui sont plus talentueux devront céder l'ensemble de leurs avantages ou des avantages liés à la mise en œuvre de leurs talents, ni même qu'ils en partagent ces avantages de façon égalitaire ou proportionnelle avec ceux qui sont dépourvus de talent. Ce que l'égalitarisme contemporain dit, c'est qu'il est parfaitement légitime pour une société d'inciter les plus talentueux à mettre en œuvre leurs talents. Et par conséquent, il est très légitime pour une société de ce genre de leur proposer, par exemple, des revenus élevés, des avantages de toute nature, de toutes sortes, pour qu'ils développent effectivement leurs talents. Si une société ne le faisait pas, les talents resteraient dormants et les avantages seraient inexistants, non seulement pour les porteurs de talents, mais aussi pour les plus défavorisés, qui, du coup, ne recueilleraient aucun avantage puisque les talents ne seraient pas mis en œuvre. Donc, une société a légitimement le droit, et même d'une certaine façon le devoir, d'inciter les plus talentueux à travailler, à mettre en œuvre leurs talents, et pour cela, à leur promettre des avantages sous forme de salaires très élevés. Et en ce sens, ceux qui sont porteurs des talents, ceux qui sont porteurs de dons supérieurs, ont incontestablement le droit de recueillir les avantages que la société leur promet. Mais il y a une grande nuance ici, c'est que c'est un avantage qui est en quelque sorte contractuellement promis par un ensemble social qui dit aux individus les plus doués « Travaillez, développez votre talent, mettez en œuvre votre degré d'énergie supérieur et vous aurez droit à des avantages que nous vous promettons en échange d'une certaine conduite parce que cette conduite est profitable à tous ». Et par conséquent, les individus les plus talentueux ne méritent pas ces avantages, au sens où ces avantages seraient liés à leur personne, mais ils les méritent au sens où ils leur ont été promis par contrat, en quelque sorte. La société s'est engagée à leur égard à leur offrir des avantages substantiels en échange de la mise en œuvre de leur talent. Cela signifie que si les plus doués ou les plus talentueux dans une société ont incontestablement droit aux avantages que la société leur promet, ce, en revanche, à quoi ils n'ont pas droit, c'est à la totalité des avantages liés à la mise en œuvre de leur talent. Et cela suffit, d'une certaine façon, à justifier la politique redistributrice de l'État. Il est légitime pour l'État de prélever une partie des revenus très élevés générés pour les plus talentueux par la mise en œuvre de leurs dons supérieurs et de redistribuer cette partie qui est prélevée en direction de ceux qui sont dépourvus de talent. Et c'est une illustration concrète du principe selon lequel nous sommes solidaires, nous partageons nos destins, nous affrontons ensemble le sort et les aléas de la fortune. Et en même temps, cela permet de concilier le principe de solidarité et une certaine forme d'inégalité de revenus, parfois très substantielle, car pour inciter les plus talentueux à mettre en œuvre leurs talents, il faut parfois leur offrir des revenus très élevés, mais des revenus très élevés qui ne correspondront pas à la totalité de ce que représente la mise en œuvre de leurs avantages. Et des revenus très élevés qui sont quelquefois dictés par des problèmes de concurrence, car il faut attirer les individus les plus susceptibles de mettre en œuvre leurs talents. Ce raisonnement, au fond, nous paraît d'une certaine manière impeccable. Et il nous paraît justifier, sans plus de questions, la notion de solidarité. Nous sommes arrivés, semble-t-il, à un point où nous sommes capables de dire la société n'est légitime, le contrat social n'est légitime qu'à condition que parmi ses articles, parmi ses principes, figure ce principe de solidarité qui compense la différence de répartition des talents et qui fait que nous affrontons ensemble les aléas de la fortune. Je voudrais m'efforcer maintenant de jeter un doute sur cette idée de solidarité et de montrer que ce n'est pas la meilleure façon, peut-être, ni même une façon adéquate de justifier la politique de compensation des inégalités et de justifier, disons, la politique redistributrice de l'État. Je pense que cette notion de solidarité représente une impasse et je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi. Revenons simplement un instant à l'idée de mérite et à l'idée que nous avons employée pour, au fond, la détruire. Nous avons dit « les individus ne méritent pas leur talent ». La répartition des talents est arbitraire. La répartition des dons et des degrés d'énergie est arbitraire. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons une chose de ce genre ? En creusant l'idée de mérite, nous disons simplement « ces individus n'ont rien fait par eux-mêmes pour posséder les talents dont ils sont porteurs ». Les avantages qu'ils produisent, les revenus élevés que pourrait générer la mise en œuvre de leurs talents, ils ne les méritent pas car ils se servent pour obtenir ces avantages de facteurs qui sont en eux, certes, mais qui sont contingents, c'est-à-dire dont ils ne peuvent pas revendiquer la responsabilité. Ils ne les ont pas créés, ils ne sont pas les auteurs, ils les ont reçus par hasard. Et en ce sens, on dira qu'un individu ne peut pas mériter une chose si, pour obtenir cette chose, il a fait usage de facteurs qu'il n'a pas lui-même engendrés, lui-même générés. Et la critique de l'idée de mérite ici est donc fondée sur le fait qu'on ne mérite pas un avantage si cet avantage a été obtenu par la mise en œuvre de facteurs que nous possédions de façon contingente. Et la critique de l'idée de mérite, là aussi, paraît impeccable et c'est ce qui fonde la proposition suivant laquelle les individus ne méritent pas leur talent. Mais si on regarde cette critique de l'idée de mérite et la façon dont elle est construite, elle semble très suspecte à son tour, car elle semble beaucoup trop forte. Si l'on revendique, pour fonder le mérite, si l'on revendique qu'un individu ne se serve que d'individus dont il puisse revendiquer, au fond, la paternité, dont il puisse revendiquer être l'auteur, alors ce n'est pas seulement le mérite des talents qui va s'effondrer, mais toute notion de mérite, quelle qu'elle soit, car il est impossible, au fond, d'arriver à une situation où l'on pourrait prétendre que ce que l'on a produit, on l'a produit et engendré en se servant uniquement de facteurs dont on peut revendiquer la paternité et dont on pourrait se dire soi-même être l'auteur. Toute chose que nous poursuivons à un moment ou à un autre, fait figurer parmi les causes qui nous permettent de la produire des facteurs que nous nous trouvons simplement à voir. Et par conséquent, il faudra bien en venir à un moment où nous dirons d'un étudiant qu'il a mérité sa bonne note parce qu'il a travaillé, parce qu'il vient d'un milieu favorisé. Mais à un moment, il y aura aussi l'intervention d'un facteur qui est contingent et qui fera que néanmoins, la bonne note est méritée. Vous ne pouvez pas dire que l'étudiant ne mérite pas sa bonne note sous prétexte qu'il vient d'un milieu favorisé. Ce serait un raisonnement qui serait vraiment très, très paradoxal. Et par conséquent, cette critique de l'idée de mérite est d'une certaine façon beaucoup trop forte. Elle détruit toute idée de mérite et c'est bien la façon dont l'égalitarisme contemporain prétend l'utiliser. Je crois par conséquent qu'il faut se replier sur une idée un tout petit peu plus modeste qui consisterait à dire la chose suivante. Si nous avons des avantages, des dons, des talents, si nous avons un degré d'énergie en nous qui nous anime, si certains ont ces dons et ces talents, alors si nous pouvons dire que nous les avons en nous, ils sont en nous, c'est vrai, de façon arbitraire, par hasard, sans que nous ayons rien fait pour les engendrer, pour en être la cause par nous-mêmes, pour les mériter par conséquent. S'ils sont en nous, mais que, par ailleurs, personne d'autre que nous ne peut revendiquer le moindre droit sur ces avantages, personne d'autre que nous ne peut manifester qu'il a un titre à posséder ces avantages plus que nous-mêmes, alors on peut d'une certaine façon conclure assez légitimement que ces avantages nous appartiennent et que, en un sens faible, certes, qui n'est pas un sens fort, nous les méritons, ils sont à nous. En tout état de cause, on ne peut pas nous les ôter, nous les enlever, nous en prélever une partie, en redistribuer une partie en direction des autres membres de la société sans notre accord, car d'une certaine façon, ces avantages nous appartiennent, font partie de nous, à condition bien sûr que nul autre que nous-mêmes ne puisse revendiquer un droit sur ces avantages. Et donc, on pourrait se replier sur une conclusion assez faible. Ce qui est en moi, certes par hasard, mais qui est tel que les autres n'ont aucun droit de l'avoir, ou en tout cas pas plus de droit que moi de l'avoir, cela m'appartient. Et par conséquent, si j'ai un talent, et si aucun autre que moi-même n'a un droit sur la mise en œuvre de ces talents et sur les avantages qu'ils procurent, alors ces talents m'appartiennent. Conclusion assez inquiétante, parce que si cette conclusion est vraie, alors la légitimité de l'État redistributeur elle-même est en cause. Car si les individus, grâce à ce raisonnement simple, sont propriétaires de leurs talents, il est rigoureusement illégitime d'en prélever une partie pour la redistribuer en direction des autres. Et donc, il semble que nous soyons dans une sorte d'impasse et que nous ne puissions plus justifier la politique redistributrice de l'État, que nous ne puissions plus justifier le fait de prélever une partie des avantages engendrés par la mise en œuvre des talents de ceux qui sont talentueux pour la diriger vers ceux qui sont dépourvus de talents. Car les individus talentueux pourraient dire « Écoutez, ces talents sont en moi, bien sûr, je n'ai rien fait pour qu'ils y soient. Vous dites qu'ils ne sont pas à moi, mais je vous retourne la question. À quel titre seraient-ils plus à vous qu'à moi ? La répartition arbitraire ayant fait qu'ils sont logés dans ma personne, ils m'appartiennent. Faites d'abord la preuve que vous avez un droit sur une partie de ce qui est en moi et l'on verra après. » Une modalité de ce raisonnement très intéressante, c'est qu'on peut le transposer au niveau international. Parce que si l'on délégitime les talents et si on donne un droit à autrui sur les talents des individus sous prétexte que ceux qui les portent n'en sont pas porteurs, on va pouvoir introduire un raisonnement encore plus ambitieux et dire « La société dans laquelle sont nés des individus talentueux mérite-t-elle les talents de ceux qui sont en elle et qui déploient les avantages de ces talents ? Non. Donc, les sociétés qui sont dépourvues d'hommes de talent, les sociétés pauvres, ont incontestablement le droit de partager les fruits de la mise en œuvre des talents des hommes talentueux qui sont membres des sociétés plus riches et plus civilisées, de partager ces fruits et d'en recueillir une partie. Et par conséquent, nous sommes exposés à un raisonnement qui implique non seulement que l'on répartisse les fruits de la mise en œuvre des talents au niveau d'une société tout entière, mais on ne peut guère empêcher la dérive vers l'idée que l'humanité tout entière, à ce moment-là, et propriétaire des talents des hommes talentueux, pourquoi s'arrêter aux frontières ? Pourquoi s'arrêter dans la redistribution aux frontières nationales ? Pourquoi ne pas étendre vers les pays qui sont eux-mêmes dépourvus d'hommes de talent ce processus de répartition ? Bien. Ces objections à l'État redistributeur semblent assez puissantes. Quelle solution a-t-on pour sortir de ce dilemme ? Il semble qu'il y en ait trois. L'une consiste à dire aux hommes talentueux, ce n'est pas votre personne que l'on utilise, on ne se sert pas de vous pour satisfaire les ambitions, les besoins et les finalités des autres. Ce que l'on utilise, ce sont des éléments qui sont en vous, ils sont logés dans votre personne, mais ce n'est pas vous, ce sont des avantages. Or, nous vous avons expliqué qu'ils sont arbitrairement en vous, donc vous ne pouvez pas vous plaindre que vos droits sont violés, que l'intégrité de votre personne est violée, car c'est comme si l'on utilisait une partie détachée de vous-même, qui n'est pas réellement vous-même, et on redistribue en direction des autres, non pas une partie de votre personne, ce qui serait effectivement contraire aux droits et à l'idée que nul ne doit être un moyen pour la satisfaction des besoins et des finalités des autres, mais on utilise des éléments arbitraires, contingents de ce qui est en vous, donc vous n'avez pas à vous plaindre. On laissera à ceux qui sont utilisés, aux plus talentueux, le soin d'apprécier la pertinence d'une réponse, et en particulier, on se demandera si ils pourront se satisfaire de l'idée que lorsqu'on puise fiscalement dans leurs revenus et dans leurs comptes en banque, pour redistribuer en direction des moins favorisés, cela les consolera de penser que ce n'est pas eux qu'on utilise, mais des avantages arbitrairement logés dans leur personne. Il semble que ce raisonnement soit en tout cas bien faible et que si l'on veut fonder la légitimité du contrat social sur un raisonnement de ce genre, on aura beaucoup de difficultés à aller très loin et en particulier à convaincre les plus talentueux de souscrire à un contrat qui comporterait ce genre de principe. La deuxième solution consisterait à dire aux plus talentueux, oui, bien sûr, vos talents sont mis en œuvre et les bénéfices liés à la mise en œuvre de ces talents ne vous reviennent pas entièrement. Une partie de cette mise en œuvre et des avantages qui y sont liés est redistribuée à l'avantage de ceux qui sont moins favorisés. Mais vous devez tenir compte d'une chose, ces moins favorisés sont vos frères, ce sont vos concitoyens, vous formez avec eux une communauté, donc vous n'êtes pas utilisé au profit des autres, mais vous êtes utilisé, si je puis dire, au profit d'une communauté dont vous êtes membre. Vous formez une sorte de totalité commune avec eux. Vous êtes solidaire, vous êtes lié, vous êtes un seul être d'une certaine façon. Et par conséquent, on ne prend pas aux uns pour donner aux autres, car la séparation n'est qu'apparente. Ici, nous sommes concitoyens, nous sommes solidairement liés dans notre destin. Nous formons une communauté de langues, de nations, qui fait que nous sommes une unité. Et en ce sens, nous pouvons effectivement dire qu'il n'y a pas violation de vos droits lorsque nous vous prenons une partie des revenus engendrés par la mise en œuvre de vos talents. Il n'y a pas violation de vos droits, car le transfert s'opère non pas au profit d'autrui, mais au profit de vous-même, de la communauté que vous formez, vous les plus talentueux, avec vos frères moins favorisés, avec lesquels vous devez être solidaires, et c'est d'ailleurs la condition de la légitimité du contrat. Cette réponse est quand même difficile à accepter, parce que de cela seul que les plus talentueux, les gens qui ont du talent, ne sont pas propriétaires de leur talent, s'ensuit-il que derrière, il existe une sorte de société avec un grand S, un sujet commun, qui, sous prétexte que les individus talentueux ne sont pas propriétaires, se retrouveraient ipso facto propriétaires, comme si le fait de délégitimer le mérite des plus talentueux faisait tomber les talents dans une sorte de pot commun qui est là naturellement, la société étant une sorte de réceptacle qui est naturellement propriétaire des talents de ceux qui, en elle, sont doués d'énergie, de capacité de travail et sont capables d'engendrer des avantages importants. Cette société avec un grand S, c'est une instance assez mystérieuse au fond, et nous sommes surpris de la voir intervenir dans une problématique qui prétend fonder la société sur le contrat. Et en ce sens, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de société qui est naturellement propriétaire des individus. Il n'existe pas de société qui est naturellement supérieure, ontologiquement ou métaphysiquement, aux individus eux-mêmes et qui aurait en quelque sorte des droits aux talents dont certains individus sont propriétaires. Cette entité est mystique, mystérieuse, et en tout état de cause, elle est incompatible avec une vision contractualiste de la société, c'est-à-dire avec une vision qui pense que la légitimité des règles communes est fondée sur le libre accord des individus et fondée sur leur libre adhésion aux principes. Bien. Alors, on pourrait à ce moment-là introduire la troisième solution et dire Bien sûr, ce n'est pas naturellement que l'ensemble social est propriétaire des talents des plus talentueux. Ce n'est pas naturellement qu'ils sont propriétaires des avantages liés à la mise en œuvre de ces talents. Mais c'est par contrat, précisément. Nous avons contracté les uns avec les autres pour, en quelque sorte, socialiser, non pas les moyens de production, mais les talents. Nous avons, par décret, collectivement, socialisé les talents. Nous avons décrété que les talents étaient chose commune. Nous avons décidé, par contrat, que les talents étaient chose commune. Nous avons décidé contractuellement que nous partagerions notre destin. Mais cette solution, à son tour, paraît bien délicate, bien difficile à admettre, parce que le contrat lui-même suppose au moins une certaine forme d'unanimité. Comment allons-nous convaincre les plus talentueux d'adhérer à un contrat qui socialise les avantages dont ils sont porteurs ? De quel droit est-ce qu'une majorité qui veut socialiser les talents l'emporte sur une minorité qui ne le voudrait pas ? De quel droit une collectivité va-t-elle décider de transformer en ressources communes ce qui est ressource privée ? Évidemment, on peut inventer l'argument ou invoquer l'argument de l'avantage commun, mais si nous pensons qu'une société est contractuelle par le libre accord et la libre adhésion de l'ensemble de ses membres, donnée d'une certaine façon individuellement, en sorte qu'une société n'est légitime que si chacun de ses membres peut adhérer aux principes organisateurs qui sont ceux de cette société, un contrat de ce genre, qui décréterait, parce que la majorité le veut, que les talents désormais sont chose sociale, paraît être un contrat qui aurait bien du mal à être accepté par ceux qui, au fond, pourraient le vivre comme une forme de spoliation. Et ceci me fait dire que l'idée de solidarité, au fond, est une impasse. Nous ne partageons pas notre destin, nous ne partageons pas nos destins. Les sociétés ne sont pas solidaires en ce sens. L'idée de solidarité impliquerait que l'on introduise l'idée d'une société avec un grand S dans laquelle les destins sont partagés, qui aurait une sorte de prééminence ontologique sur les individus, et je ne crois pas que ceci soit possible. Existe-t-il une autre solution pour redistribuer les ressources et pour légitimer le rôle redistributeur de l'État ? Je vais essayer de le suggérer très très brièvement. Revenons un instant à la contestation de l'idée de mérite que nous faisions tout à l'heure. Nous disions « les talents sont arbitrairement répartis et par conséquent, il faut qu'ils soient compensés ». Mais au fond, pourquoi ne pas aller plus loin ? Il y a des individus dans la société qui ont des goûts, des aspirations, des finalités très différentes. Les unes sont très coûteuses à satisfaire, les autres, au contraire, peuvent être satisfaites à très bon compte. Et par conséquent, pourquoi n'allons-nous pas jusqu'à dire, égalisons non seulement les talents, mais les goûts, les aspirations, de façon à ce que chacun réussisse également. Donnons plus de ressources à ceux dont les goûts sont onéreux, donnons plus de ressources à ceux qui ont plus de difficultés à atteindre leurs objectifs qu'à ceux qui ont plus de facilité à les atteindre. Après tout, si j'ai des goûts dispendieux et onéreux, je ne suis pas responsable. Cela m'a été transmis par mon éducation, c'est un fait de hasard, c'est arbitraire, je ne l'ai pas choisi, nos goûts ne sont pas choisis. Pourquoi ne va-t-on pas jusqu'à cette dernière limite dans l'accusation d'arbitraire ? Il y a une raison très simple pour laquelle nous n'allons pas jusque-là. C'est que s'il fallait, si je puis dire, socialiser les aspirations, alors les personnes seraient englouties, tout simplement. Si nous ne pouvons pas socialiser les goûts, c'est-à-dire si nous ne pouvons pas les compenser, si nous ne pouvons pas socialiser les aspirations, c'est que tout simplement, elles nous caractérisent, elles nous définissent, ces aspirations et ces finalités, en tant qu'individus. Et par conséquent, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'égaliser les contextes dans lesquels nos aspirations sont légitimement poursuivies par nous. Mais il ne s'agit pas de faire en sorte que chacun réussisse également et de donner des moyens différenciés à des individus sous prétexte que leurs aspirations sont différentes, les unes plus difficiles et les autres moins difficiles à satisfaire. Je crois que dans le fond, ce raisonnement s'applique aussi aux talents. Et par conséquent, s'il ne convient pas d'égaliser les goûts, il ne convient pas non plus d'égaliser les talents. Les talents font partie de la personne. Toute tentative pour les compenser ou les égaliser aboutirait au fond à une disparition de la séparation entre les personnes. Et par conséquent, nous avons une question simple, qui est qu'une société, pour être légitime, doit au fond égaliser non pas les personnes, ce qui est impossible, non pas les talents, ce qui est impossible, non pas les goûts, les aspirations, les finalités, ce qui est impossible, mais égaliser les contextes dans lesquels les personnes sont placées. D'ailleurs, c'est l'idée libérale centrale, c'est l'idée centrale de la philosophie politique libérale. Il faut que des individus qui ont des goûts, des talents, des aspirations différents disposent des mêmes moyens pour les satisfaire. Du moins, c'est l'idéal régulateur, c'est cela qui serait juste. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'être solidaire, il ne s'agit pas de partager nos destins, mais il s'agit de produire de la légitimité, de produire une sorte de république. Et cette légitimité ne peut reposer que sur un seul facteur, c'est-à-dire sur l'idée que, quelles que soient nos aspirations, quelle que soit la nature de notre personne, nous avons droit aux mêmes moyens pour les poursuivre. Nous avons droit à des moyens identiques à ceux dont disposent les autres pour les poursuivre. Et nous sommes fondés à dire que si nous ne disposons pas des mêmes moyens pour poursuivre nos aspirations et pour mettre en œuvre nos talents, si nous ne disposons pas des mêmes moyens, alors nous faisons d'une certaine façon l'objet d'une discrimination. Nous sommes discriminés par rapport à ceux qui, pour réaliser leurs ambitions, pour mettre en œuvre leurs projets de vie, disposent de moyens supérieurs aux nôtres. Et en ce sens, si nous sommes discriminés, cela signifie que nous vivons dans un ensemble social qui nous traite, en tant que personnes animées d'un certain nombre de talents et aussi animées d'un certain nombre d'aspirations, qui nous traite comme des individus qui ont moins de valeur que d'autres, c'est-à-dire que la question de savoir si nos aspirations et notre personne se développent comme celles des autres ont le droit de se développer, est au fond considérée comme ayant moins d'importance. Et à ce moment-là, ceux qui ont moins de moyens, qui disposent d'un contexte au fond discriminatoire pour réaliser leurs aspirations et mettre en œuvre leurs talents, seraient fondés à dire que les règles fonctionnent à l'avantage de ceux qui ont plus de moyens et seraient par conséquent fondés à dire que la légitimité du contrat n'existe pas. En ce sens, je crois que la solidarité est une idée qui aboutit à une impasse et qu'il faut la remplacer par une idée au fond plus simple. Ce que nous voulons, c'est non pas partager nos destins, mais vivre dans le royaume du droit, vivre dans la légitimité, c'est-à-dire vivre au milieu d'individus dont nous n'avons pas à nous préoccuper sous forme de dissuasion, de contrainte, mais dont nous voulons pouvoir penser qu'ils respectent nos droits, notre personne, ce que nous sommes, ce que nous aspirons à faire. Nous voulons vivre au milieu de gens qui pensent avoir une obligation de respecter les règles sociales. Nous pensons que cette existence dans le règne du droit vaut mieux, infiniment mieux, qu'une existence dans laquelle nous nous enfermerions chez nous et nous nous méfierions de tous ceux qui nous entourent. Nous voulons passer du règne du fait, de la simple coexistence, au règne du droit, c'est-à-dire à une existence dans laquelle nous voyons, sentons et percevons que ceux qui nous entourent considèrent les règles communes comme des règles qui les obligent moralement, considèrent les articles du contrat comme des règles qui sont légitimes, qui sont des règles de droit qui les obligent et qui norment leur conduite, non pas comme une contrainte, mais comme un principe de légitimité. Or, si nous voulons ça, nous devons faire en sorte, ce n'est pas une question de solidarité, mais une question de désir de légitimité, nous devons faire en sorte que ceux qui nous entourent ne puissent pas nous percevoir, ou percevoir les plus favorisés, comme des gens qui ont un contexte plus favorable, et donc ne puissent pas se percevoir eux-mêmes comme discriminés, car cela détruirait en quelque sorte leur devoir d'obéir aux lois. Et je termine en mentionnant le voile d'ignorance. Ce que l'on peut reprocher à l'idée de solidarité, c'est qu'au fond, elle ne serait mise en œuvre et adoptée que dans des conditions d'ignorance de ce que nous sommes. Et c'est comme si l'on nous disait, vous devez accepter de partager votre destin, car vous ne savez pas si vous-même ne ferez pas partie des plus défavorisés. Et par conséquent, pour éviter de vous retrouver dans la situation de ceux avec qui on ne partagerait pas, vous devez accepter derrière le voile d'ignorance le principe selon lequel on partagera si jamais vous êtes, vous, parmi les plus favorisés. Je crois que le principe de légitimité permettrait au contraire de dire, non pas derrière, mais devant le voile d'ignorance, et en parfaite connaissance de cause de ce qu'est notre situation, en parfaite connaissance de cause de ce qu'est notre position dans la structure sociale, elle permettrait de dire, je veux qu'il y ait de la redistribution, car je veux vivre dans la légitimité. La question n'est pas d'éviter le risque d'être dans la position du plus défavorisé, mais la question est que, d'une façon décidée, nous ne voulons pas vivre dans le règne du fait, mais nous voulons vivre dans le règne du droit. Merci.